Radio Kapi. Oh,
Kapi. Il est 12h à Kinshasa, le journal Billy Yvan Lutumba.
Pour votre information ce midi sur Radio Capi, nous vous amenons tout d'abord pour voir comment se sont déroulées les activités ce lundi matin à Goma par rapport à la journée ville morte décrétée par la société civile. Nous vous faisons dans ce journal le point sur les conditions difficiles de conservation des morts avant leur inhumation dans la ville de Mbujimayi. La coupure d'électricité depuis quelques temps est à l'origine d'un désordre indescriptible pour sortir les corps aux fins des obsèques. Fidel Balibouno, professeur de la faculté des sciences à l'université de Kinshasa, intervient en fin de cette édition comme invité. Il nous parle de l'initiative d'organisation prochaine des concours pour identifier les meilleurs mathématiciens capables de représenter l'Afrique aux Olympiades internationales. Vous suivez Radio Okapi maintenant depuis Kinshasa. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nord Kivu, l'appel à des journées ville morte a été très peu suivi ce lundi dans les différentes villes de la province. La coordination provinciale de la société civile qui l'a fait ce week-end exige notamment la libération de Bunagana sous occupation du M23, la levée de l'état des sièges et le départ de la MONUSCO. Cependant, à Goma, tout comme dans les territoires, pas d'engouement comme à l'accoutumée, le trafic reste fluide. Quelques activités économiques, les cas des quelques banques, stations-services et commerces informels ont ouvert timidement leurs affaires. Gabriel Ouamenia a fait la ronde de la ville de Goma, voici son reportage.
À Goma, par exemple, les écoles et certains grands commerces, ainsi que le marché central de la ville, qui n'ont quasiment pas fonctionné, on note tout de même des activités qui tournent certes au ralenti dans la ville. Il n'y a pas d'engouement habituel dans les différents carrefours, mais le trafic urbain reste fluide. Jusqu'en fin de la matinée, il n'y a pas d'incident majeur à signaler, même si certaines sources proches de la police ont signalé quelques altercations entre les jeunes et la police dans la matinée vers les axes Majengo Katoï et Ndosho. Pour l'instant, dans les quartiers commerciaux Birere, on peut observer la présence de certains tenanciers des magasins, des boutiques et bistrots qui restent dubitatifs et impatients devant les offices de leurs affaires. Dans la foulée, les avis divergent sur le terrain. Les quelques habitants que nous avons contactés dans notre ronde soutiennent les actions de la société civile, alors que les autres nous ont tout simplement exprimé leur ras-le-bol, surtout ceux qui travaillent dans les secteurs informels. Car les manifestations ne leur amèneront pas à la solution attendue, alors que les autres se disaient soutenir l'idée d'extirper les officiers traîtres dans l'armée pour rendre plus efficaces les opérations militaires en cours dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri.
Puisqu'on parle des Ituri, sachez que 16 personnes qui avaient été prises en otage il y a 3 semaines par le groupe armé Codeco ont été libérées dimanche par leurs ravisseurs en échange de 4 miliciens arrêtés par la justice militaire. La cérémonie a eu lieu à Réti, à environ 140 km au nord de Bunia, en présence des administrateurs militaires de Maag et Djougou. Selon ces derniers, cette libération s'inscrit dans le cadre du processus de paix en cours dans la province. Martial Kizabiamungu.
Tout est parti de l'arrestation en août dernier des 4 assaillants de la Codeco vers Nrélé dans les territoires de Maagi et qui ont été transférés à l'auditorat militaire de garnison à Bunia. En représailles, deux leaders de la Codeco ont pris en otage le 8 septembre dernier 17 civils qui se trouvaient au marché hebdomadaire de Kwandroma. L'un d'eux a été relâché après quelques heures. La libération de 16 autres otages a été conditionnée par la remise en liberté des 4 assaillants après plusieurs jours de négociations entre des notables de la communauté locale, autorités politico-administratives et les leaders du groupe armé IRDPC-Codeco. La justice militaire a libéré samedi ces 4 miliciens poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel en échange de ces otages. Pour l'administrateur militaire du territoire de Maagi, ces gestes s'inscrivent dans le cadre de la recherche de la paix et la cohésion sociale entre communautés locales. Satisfaite de la libération de ces personnes, la coordination de la société civile a dit Touri estime en revanche que l'État devrait imposer son autorité pour punir les faits reprochés aux miliciens. Dieudonné Lossa.
Ça rend l'État effectivement fragile, mais pour nous, le fait de retrouver toutes ces personnes vivantes, ça nous arrange.
Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Et à Kilembwe, à l'extrême sud du territoire de Fizi, dans le sud Kivu, le Centre des formations internationales en droits humains et développement
CFDH annonce le mouvement massif des près de 500 ménages des dépendants auto-rwandais des combattants du CNRD dans plusieurs villages du secteur de Lulengue depuis 3 jours. Ils viennent de la forêt des Ewabora fuyant des combats entre deux factions CNRD la semaine dernière. Ces dépendants constitués en majorité des femmes, des enfants et des personnes du troisième âge vivent dans des conditions précaires. Fiston Goma.
Selon les responsables des CFIDH à Kilembo et Kabumba Luangela FM, ces déplacés internes se sont installés dans des centres de santé. Leur présence est signalée à Makola, Katupo, Magembe, Lusilo, Bimbili, Kiwungwe, Igomba et à Kilembo Centre.
Bon, ici, ils sont dans des conditions vraiment déplorables. Et la plupart d'eux passent la nuit à la belle étoile. Quand il pleut, ils sont exposés à la pluie. On mange difficilement. C'est un peu ça, il n'y a pas assez d'abri. On a déployé les équipes dans presque toute la zone. Hein. On n'a pas encore réuni les chiffres exacts, définitifs.
Le chef de secteur de Lulengue, Samuel Kabindula, de son côté, précise que depuis le 10 septembre dernier, deux factions du CNRD ex-FDLR se sont affrontées à la suite d'un conflit interne au village de Mabondo. Un groupe est resté dans ce village dans la forêt de Ewabora et l'autre s'est déplacé vers la zone de Mikemba à Kilembwe, craignant d'être attaqué par la force conjointe. Leur présence a semé la panique parmi les populations locales. Les acteurs locaux de Kilembwe craignent que cette présence du CNRD n'affecte la situation sécuritaire locale avec un éventuel conflit de pouvoir entre ces Hutus rwandais et les Mai Mai à Kutumba sur le contrôle des carrés d'extraction d'or. Les FRDC à Kilembwe promettent de renforcer les mesures préventives de sécurité dans la région. Douvira Fiston Mayabala Radio Kapi.
Tournons-nous à présent vers ce qui est devenu depuis peu une autre zone insécurisée avec des tueries. Le conflit interethnique entre les peuples Teke et Yaka qui a éclaté depuis le mois de juin dernier vient de se transposer également dans la province du Kwilu. Samedi 24 septembre 2022, des assaillants armés ont attaqué le village de Bukusu situé dans le territoire de Bagata au Kwilu. Situé dans le territoire de Bagata, dans le Kwilu, je disais, plusieurs personnes tuées, dont le chef du village décapité et plusieurs maisons incendiées. Information livrée dimanche à Radio Kapi par l'administrateur du territoire de Bagata, Joseph Monkoto, qui signale aussi le déplacement massif de la population de Bukusu vers Fatundu. Selon lui, le nombre des morts n'est pas encore déterminé. On l'écoute.
C'était hier, le village de Bukusu, qui est dans le groupement Fayala, il y a nos frères Yaka qui ont traversé la rivière Kwango, où ils ont assassiné les chefs du village et quelques personnes, ainsi que certaines maisons incendiées. Il y a des déplacements qui fuient vers Fatundu et les villages environnants, dont le capitaine de la police nous a rassurés, et il y a aussi une dispersion sécuritaire au niveau du port de Fatundu, où on commence aussi à résister les déplacés pour savoir les effectifs. Au réunion du comité de sécurité du territoire de Bagata, nous avons pris des mesures tout d'abord d'informer notre hiérarchie, la province, et aussi demain le comité de sécurité de Bagata va faire la descente sur les à Fatundu pour bien investiguer.
Au total, combien de personnes sont tuées à Bukusu?
On n'a pas la précision sur le nombre de personnes. Vous savez que quand il y a la panique, les gens fuient. Est-ce qu'il y aura des gens qui vont les nombres. Ça, c'est peut-être, ça va venir après.
Kassa Oriental, à présent, depuis la coupure du courant sur la ville de Mbujimayi, les principales morgues ne sont plus opérationnelles. La seule morgue qui fonctionne est celle de l'hôpital Notre-Dame de l'Espérance grâce à son générateur. Conséquence, des longues files d'attente pour sortir le corps de cette morgue pour des obsèques sont observées au funérarium de la morgue et sur la route qui mène à la morgue. Des explications avec vous, Esther Ndalafina.
La morgue de l'hôpital Notre-Dame de l'Espérance est la seule morgue qui fonctionne actuellement depuis la coupure de l'énergie électrique sur une partie de la ville de Mbujimayi. C'est depuis quelques semaines que les frigos mortuaires des hôpitaux généraux de référence de Dipumba et de Bonzola n'accueillent plus les dépouilles mortelles par manque de l'énergie électrique. La révérende sœur Julie Kapinga, chargée de l'administration à la morgue de Notre-Dame de l'Espérance, affirme pour sa part que son service est très sollicité ces derniers jours.
On accueille plus de 15 corps par jour et la sortie 20 corps par jour, 15, et nous avons une foule immense. On les accueille.
Vu le nombre de corps gardés au frigo mortuaire de l'hôpital Notre-Dame de l'Espérance, la sortie des corps pour l'enterrement devient un casse-tête. Depuis 9 heures, les amis, les collègues ainsi que la famille éprouvée de Jacqueline Tanga Lukosa attendent la sortie du corps pour l'enterrement. Devant eux, plus de 12 familles se sont également fait enregistrer pour la sortie des corps de leurs membres de famille. Béatrice Kapinga a passé plus de 3 heures pour attendre la sortie du corps.
On se retrouve là il y a autant d'heures qu'on est debout. Il y a beaucoup de corps qu'il faut libérer.
Hubert Mbombo, venu pour la sortie du corps d'un de ses proches, demande au gouvernement de s'investir dans la réparation de la centrale hydroélectrique de Tchala.
Nous demandons à notre gouvernement afin de réaménager la situation du courant. Voilà qu'il y a beaucoup de gens, il y a même des cadavres qui sont en train d'être naillés.
Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Dans le Kassai central voisin, le centre d'encadrement intégré des Lukibu Seilou alerte sur la situation sanitaire préoccupante dans quatre zones de santé de Dimbelenge suite à la rupture en médicaments. C'est notamment à Benetchadi, Mueshi, Katende et Lubunga. À en croire le coordonnateur de cette ONG, le partenaire Nsar Sanrou, qui appuyait les structures de santé, étant arrivé fin contrat depuis le mois de février, l'on assiste à une pénurie. Des cas de décès sont enregistrés par manque des produits essentiels pour les soins. Kenir Kenan Andy appelle à l'intervention des autorités et d'autres partenaires avec un appui d'urgence en médicaments. Il a dit à François Kadima.
On a décrié la mortalité des enfants et des femmes parce que vous assistez auprès du personnel de santé dépourvu de médicaments essentiels et donc dans l'incapacité d'apporter leur soutien à notre population. En appelant aux autorités provinciales, mais aussi aux partenaires techniques et financiers qui sont dans la province, notamment l'OMS, c'est l'UNICEF, et bien d'autres, intervenir de manière urgente dans ces zones de santé en termes d'appui à médicaments essentiels d'urgence. Nous sollicitons de cette occasion pour demander également à la division de la santé, à l'inspection, de diligenter les enquêtes pour savoir pourquoi les ressources générées par les médicaments apportés par le partenaire Sanru se sont diluées et n'ont pas pu être remontées de telle sorte que après le départ du partenaire, les structures sanitaires des zones santé de Benetchadi, de Mouetch, de Katende et de Lubumba continuent à fonctionner normalement. Donc la situation est tellement grave qu'il y a nécessité d'une intervention d'urgence.
À la division provinciale de la santé, l'on indique que la livraison des produits est trimestrielle et le centre d'approvisionnement a déjà convoyé camions contenant des médicaments qui est en route vers les zones de santé de Dimbelenge. Dans le Maniema, le pont Ndeka se trouvant en pleine commune rurale de Lubutu sur l'axe routier Lubutu-Punia a cédé depuis plusieurs jours. Le député national qui alerte fait savoir que cette situation bloque la circulation et le passage à la fois de plusieurs véhicules transportant des minerais, des vivres et non-vivres pour ravitailler le territoire voisin de Punia où il s'observe maintenant la pénurie des produits de première nécessité. Stanislas Oleko Mafoué plaide pour la réhabilitation rapide de ce pont stratégique. On l'écoute, il a été joint par Florence Kizalunga.
Cette situation bloque la circulation, les passages à la fois de plusieurs véhicules en provenance de Kisangani ou de Punia. Plus grave est que les élèves ne savent plus traverser ces ponts pour rejoindre les bancs de l'école. Les malades non plus, seuls les courageux, s'exposent dangereusement à traverser sur un seul petit longeron sur lequel un imprudent glissant allait perdre la vie. Hier n'eût été l'intervention divine. Suite à cette situation malheureuse, nous lançons encore une fois un SOS à l'endroit des autorités compétentes pour qu'elles mettent à profit des divers usagers routiers les frais de péage perçus à travers plusieurs barrières érigées sur les tronçons routiers Kisangani, Lubutu et Punia, en réhabilitant le plus rapidement possible les ponts d'Eka, surtout que la saison de pluie pointe à l'horizon.
Actualité internationale.
16 cas d'Ebola ont été recensés en Ouganda depuis mardi et l'annonce par les autorités de la présence d'une épidémie dans le centre du pays a annoncé dimanche le ministère de la Santé. Vendredi, les autorités sanitaires avaient annoncé que 4 personnes étaient mortes du virus d'Ebola en 3 jours. Tous les décès et les cas avaient été enregistrés dans le district de Mubende à environ 150 km à l'ouest de la capitale Kampala. Le ministère de la Santé a annoncé dimanche sur Twitter que 16 cas d'Ebola ont été recensés depuis le début de l'épidémie et que des cas ont été identifiés à l'extérieur des Mebende, 3 à Kiegewa et 1 à Kassanda dans le centre du pays. Des centaines de Guinéens attendent depuis 13 ans que soit jugé l'ancien chef des juntes Moussa Dadis Camara et les responsables présumés de l'effroyable massacre commis le 28 septembre 2009. Ce moment est arrivé, les victimes et les proches seront nombreux à se presser en ce mercredi, date anniversaire, devant un tribunal flambant neuf à peine achevé dans le centre de Conakry. Sauf contre ordre des dernières minutes, le procès historique du capitaine Camara et des 10 autres anciens officiels s'y ouvrira à quelques kilomètres des lieux où des soldats, des policiers et des miliciens se sont livrés à 2 heures d'abomination contre les sympathisantes et sympathisants de l'opposition à l'intérieur et aux abords du stade du 28 septembre.
L'invité.
Brazzaville vient d'abriter le congrès africain des mathématiciens. Placé sous les auspices du président congolais Denis Sassou Nguesso, ces assises ont connu la participation des spécialistes venus du Maroc, Burkina Faso, Afrique du Sud, Burundi, du Bénin et de la RDC. Parmi les recommandations, les participants ont décidé d'organiser des concours à l'échelle nationale afin d'identifier les meilleurs mathématiciens capables de représenter l'Afrique aux Olympiades internationales dans ce domaine. La RDC y a été représentée par professeur Fidèle Balibouno de la Faculté des sciences à l'Université de Kinshasa. Il s'entretient sur cette question avec Pascal Massirika.
Professeur Fidèle Balibouno, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de participer au colloque africain sur les mathématiques dont vous êtes de surcroît enseignant à l'Université de Kinshasa. Est-ce que cette matière a véritablement de la place en RDC?
Oui, elle a immensément de l'importance comme partout ailleurs dans les pays développés. Les mathématiques ont fait leurs preuves et ces pays-là ne s'en séparent jamais, sauf dans nos pays du tiers-monde.
Dites-nous comment et pourquoi.
Parce que pour booster la technologie, depuis très longtemps, les pays développés ont très souvent utilisé les mathématiques. En l'occurrence, il faut parler ici de l'intelligence artificielle qui est un domaine très récent. Ces pays s'y investissent parce que c'est ce qui va donner la force, la puissance aux pays qui vont maîtriser ces domaines de mathématiques. Cette intelligence artificielle se manifeste par exemple dans mon téléphone portable, dans les drones et beaucoup d'autres technologies de pointe aussi.
Et parmi les résolutions, le colloque de Brazzaville a préconisé l'organisation des concours des maths à l'échelle nationale pour pouvoir trouver les meilleurs mathématiciens capables de représenter le pays dans les Olympiades. Avez-vous le sentiment que cela est suffisant pour stimuler les jeunes Congolais à s'intéresser aux maths?
Cela n'est pas tout à fait suffisant. Il faut aussi former des bons professeurs en mathématiques qui stimulent nos étudiants à aimer les mathématiques, à les faire dans les universités et enfin à se lancer dans la recherche des hauts niveaux dans le domaine des mathématiques.
En tant que praticien du domaine, qu'est-ce que vous proposez dans les contextes actuels de la RDC pour pousser les gens à aimer les maths?
Il faut des émissions radio-télévisées pour captiver l'attention de nos étudiants qui sont par ailleurs très forts, mais fort malheureusement, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas à ce niveau très bien encadrés. Ensuite, il faut que le gouvernement congolais lui-même s'implique. Parce que c'est un challenge du siècle, à mon point de vue, que nous ayons des très bons mathématiciens. Il faut souligner ici que les maths sont une science hautement stratégique, à tout point de vue.
Espérons que la République démocratique du Congo va également tirer profit de ces assises dans le contexte actuel.
Pour booster la République démocratique du Congo, une des recommandations a été que les mathématiciens puissent être engagés dans les industries et en même temps dans les banques, dans le souci de booster nos économies africaines. Parce que on remarque que dans les pays développés, ces pays-là utilisent à bon escient les mathématiciens dans la recherche, dans l'industrie, dans les banques et dans beaucoup d'autres domaines très importants dans le développement national. Il y a d'autres domaines qui sont utilisés par les ingénieurs, par exemple dans la construction des submersibles. Eh bien, ce sont les mathématiciens qui sont à la base de tout cela.
C'est-à-dire les submersibles?
Ce sont des engins qu'on peut plonger sous l'eau, soit à des fins militaires, pour le camouflage des rampes de l'engin lancement des missiles ou alors pour l'exploration sous-marine. Il y a aussi les fusées, il y a l'astronomie, c'est pas mal de choses que les mathématiques font.
Comme on le voit, professeur Fidèle Balibouno, la République démocratique du Congo a encore du chemin pour mettre en application les conclusions du colloque de Brazzaville.
Nous avons du chemin, comme par exemple les recherches en épidémiologie, il y a beaucoup de recherches là-dessus que les mathématiciens maîtrisent très bien, par exemple pour le cas de Covid, la malaria et d'autres maladies infectieuses. Il y a le problème du réchauffement climatique qui demande des modélisations précises des mathématiques. Si déjà le gouvernement congolais peut s'investir là-dedans, ça peut donner de l'espoir.
Professeur Fidèle Balibouno, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie. Okay.
We'll be right back.